Grégory Magne, bonjour. Donc vous êtes le réalisateur de la comédie olfactive, dirions-nous, Les Parfums, qui sort chez nous le 25 mars. Alors, parlons un petit peu de la genèse. Est-ce qu'il faut avoir soi-même du nez pour penser et imaginer une histoire aussi folle que celle d'Anne Wahlberg?
Il faut avoir soi-même été marqué par la force du souvenir olfactif. Et je pense que parmi vos auditeurs, tout le monde a dû vivre ça, une odeur qui nous rappelle soit quelqu'un, soit un moment de notre vie parfois très très ancien, 20 ans, 30 ans en arrière, et qui nous plonge avec une puissance vraiment très particulière. L'odeur, elle nous ramène la personne ou l'endroit d'une manière comme aucun autre type de souvenir, je trouve. Et moi, j'étais marqué par ça. Et du coup, je me disais, quelqu'un qui, comme Anne Wahlberg, a un odorat particulièrement développé, a une mémoire olfactive particulièrement développée, parce que pour être né, il faut évidemment avoir de la mémoire de toutes ces odeurs et de toutes ces nuances. Ben, comment on perçoit le monde, comment on perçoit ses contemporains, comment on vit les événements quand ils nous arrivent d'abord par l'odeur?
Alors ce monde des nez, c'est quand même un monde fort secret. Ça a été facile de convaincre ces gens de devenir même consultants.
Ouais, c'est très peu de gens, c'est quelques centaines de personnes au monde qui sont nées. Et puis là, on parlait en plus de nés qui travaillent dans le parfum, dans des maisons comme ça prestigieuses, donc qui sont évidemment encore moins nombreux. Et eh bien oui, ce sont des gens qui... J'ai travaillé avec deux nés plus particulièrement, et une femme qui est le nez d'Hermès, et
Christine
Nagel, absolument, un garçon qui s'appelle Jean-Jacques, Jacques étant son nom de famille, et qui lui est le nez de la maison Caron. Et ils m'ont, ils ont été hyper intéressés par l'idée qu'on mette ça au cinéma et qu'on essaie de le faire fidèlement. Et puis, je crois que le fait que ce soit Emmanuel De Vos qui incarne ce nez, ça leur plaisait beaucoup. Ouais, ça les rassurait, voire ça les honorait peut-être.
Alors, film ancré dans la réalité, pourtant, il y a une petite entorse que j'ai pu remarquer, c'est J'adore,
ouais,
qui est de chez Dio, qui a été créé en 99. En fait, c'est pas Anne Wahlberg, c'est Calice
oui.
Becker, non?
C'est une femme, ouais, mais c'est une femme. Alors qu'il y a très peu de femmes dans la profession de nez, c'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été une profession exclusivement masculine. Et Christine Nagel, par exemple, qui est aujourd'hui née d'Hermès, quand elle a voulu faire ce métier, elle nous disait que d'abord elle a été cantonnée à des tâches un peu moins nobles, c'est-à-dire qu'on lui demandait de, non pas de créer des parfums, mais de deviner de quoi étaient faits les parfums de la concurrence, par exemple. Et que c'est en faisant ça qu'elle avait formé son nez, que c'était. Voilà. Mais parce que les femmes n'étaient pas les bienvenues dans ce métier, là aussi. Bon. Et puis, petit à petit, elles ont investi à profession, et effectivement, J'adore a été créé par une femme.
Alors, un des thèmes qui est marquant, Anne vit dans sa bulle, en fait, un peu coupée du monde. Vous aussi, finalement, quand vous partez en solitaire traverser l'Atlantique, non?
Oui, moi, quand on part en solitaire traverser l'Atlantique, on est évidemment dans sa bulle, surtout que moi, c'était une transat où on n'avait pas de téléphone satellite, pas de communication possible avec la Terre, pas d'ordinateur, tout ça. Donc, on passe, moi, je sais plus, j'ai dû passer 35 jours seul, c'est sûr, mais au moins 17 jours sans parler à personne d'autre qu'à moi-même, quoi. Parce que même à la radio, je ne croisais pas de bateau, de trucs. Donc, voilà. Et elle est dans sa bulle. Et c'est vrai que ce sont des personnages qui me plaisent. Aussi parce que quand on écrit, on est dans sa bulle. On est seul avec ses personnages, son histoire. Et c'est difficile d'en parler à qui que ce soit, quoi, et que ça dure longtemps. Et la créatrice de parfum, il y a ça. Il y a besoin de concentration d'abord. Mais faire un parfum, c'est quelque chose qui vous habite pendant... des mois, parfois des années, et comment reconstituer cette chose qu'on a en tête. C'est le principe de tout artiste. Il y a ce livre génial là sur Giacometti qui s'appelle Un portrait, où on le voit recommencer sans cesse le portrait de quelqu'un. Il fait poser une personne qui pense que ça va durer 2 jours, et puis ça dure des semaines et des semaines, et il souffre de pas réussir à faire ce qu'il a en tête.
Et c'était le cas aussi dans ce film?
Pour moi, ouais.
Que vous avez écrit, hein.
Ouais, que j'ai écrit. Mais c'est vrai que il y a toujours un décalage entre le film qu'on écrit et qu'on projette, et puis ensuite il faut se heurter à la réalité d'un tournage, de décors, de tout ça. Et le film qu'on fait est souvent un peu différent. Alors il faut faire, ça ne veut pas dire moins bien. Ça veut dire qu'il est différent, les images, les lumières ne sont pas celles qu'on avait imaginées ici et là, et que du coup, tout le travail, c'est de faire un film d'abord qui est élégant, qui ait sa cohérence, qui soit bien, mais avec lequel on va être réconcilié, sachant que c'est pas, on ne reconnaît pas forcément tout à fait son film qu'on avait en tête. Voilà.
Alors, sacré défi, c'est mettre des odeurs en images.
Ouais.
Ça, c'est beau challenge quand même, hein, ça.
Ouais, en images et puis en scénario, c'est ce qui m'excitait à l'écriture de ce film, c'est se dire comment je vais faire pour que le spectateur, dans son fauteuil, il ait l'impression ou l'envie forte de sentir. Sentir ce qu'il y a à l'image. Et que quand il sort de la salle, il ait quelque part cette conscience un peu plus éveillée qu'il a aussi un nez. Et que les souvenirs qui se fabriquent, les sensations qu'il a, la perception du monde, elle passe aussi par son odorat. Voilà, si ce film peut nous rappeler ça par moments, j'en serais très heureux.
Alors, road movie à travers la province qui est plus parfumée finalement.
Ouais, moi j'aime la province. Alors, bah, déjà, c'est sûr que par rapport à la ville, en tout cas par rapport à une capitale comme Bruxelles ou comme Paris, les odeurs prennent une ampleur bien plus importante et agréable à la campagne. Et puis la province, parce que moi j'aime montrer cette France, j'aime essayer de dessiner comme une mythologie de ce qu'est notre province, notre France, un peu comme les Américains nous ont fabriqué une mythologie de leur pays, c'est-à-dire qu'on va aux États-Unis, le moindre fast-food, la moindre route, la moindre station essence nous paraît, waouh, c'est un décor génial, ce n'est jamais qu'une station essence. Et moi, donc, j'aime bien me dire, mais nous, c'est quoi nos lieux qui sont parfois vilains, mais qui font vraiment partie de notre paysage, et peut-être qu'il faut les regarder comme mes personnages, quoi, avec un peu de bienveillance, de tendresse, ces lieux-là, parce que on évolue parmi eux, et puis certainement que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on leur trouvera du charme.
Dans les années 70-80, il y a eu des films en odorama,
ouais,
qui n'ont pas marché.
Il y en a eu un, ouais, surtout,
ouais,
qui s'appelle Odorama.
Polyester.
Ouais, non, Polyester. Ouais.
Ouais. Et est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous êtes retourné voir ces films en vous disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau de la mise en scène?
Alors, pour être tout à fait honnête, non, je ne les ai pas vus. En revanche, une fois le film fait, on s'est dit comment on pourrait s'amuser avec ça quand même. Et du coup, on a pensé à des cartes qui vont être distribuées dans un certain nombre de cinémas sur lesquelles on pourra avoir avant la séance une odeur qu'évidemment on ne dévoilera pas. Et peut-être qu'en voyant le film, vous la reconnaîtrez.
Ah,
voilà. Mais ça ne sera pas dans tous les cinémas, mais on va essayer d'en mettre en place je ne sais plus combien de milliers. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un retour aux vraies valeurs par rapport à ce monde un peu frelaté dans lequel on se trouve actuellement, le travail, enfin le savoir-faire de Dan?
Ah, c'est... Ouais, enfin, c'est un point de vue très subjectif, mais oui, moi j'aime l'idée de ce travail acharné, quand on fait des films, on est forcément là-dedans, hein, parce qu'on passe des années sur 90 minutes, alors il faut être un peu dans le détail, quoi. Et puis, c'est vrai que j'aime ça. Mon modèle, en fait, paradoxalement, pour Anne Valberg, c'était une de mes voisines, quand je suis arrivé à Paris, qui était violoncelliste, qui faisait le conservatoire et qui préparait le concours pour entrer à l'opéra, où elle est entrée après, et qui donc vivait le violoncelle de 7h du matin à 9h30 du soir, ne vivait que là-dedans. Que dans la musique, et était à sa manière dans sa bulle, un peu démodée, un peu hors du temps, à l'actualité ça lui passait d'un côté, les tendances ça lui passait de l'autre, et elle était là avec ses morceaux qui avaient plusieurs siècles et son instrument, et voilà, c'était toute sa vie, quoi.
Les comédiens maintenant. Alors, Grégory Montel, retrouvailles après L'air de rien, et vous avez écrit pour lui.
Oui, j'ai écrit pour lui, et retrouvailles relatives, parce qu'on ne s'est jamais quitté. On est devenus très amis sur l'air de rien, et puis il se trouve qu'on habite vraiment le même quartier, quoi, qu'on est un peu voisins, donc on se croise si ce n'est souvent facilement. Et c'est vrai que j'ai écrit en pensant à lui et en le connaissant encore mieux qu'à l'époque de l'ère de rien, puisque maintenant je sais comment il est dans la vie, dans quasiment toutes les situations. Donc quand j'écris, j'ai une idée assez précise de ce que je veux. Ce qui lui rend pas la tâche facile, parce que sur le plateau, je vais être évidemment plus dur avec lui. Et
le quand... pauvre.
Ben oui, mais, oui, mais c'est ce qui fait peut-être qu'on le trouve si naturel et tout
et
ça.
Et c'est crédible.
Aussi. Et crédible, ouais. C'est que quand il est un peu faux, moi, je le vois à 100 mètres. Quoi. Je le sens, ouais, exactement.
C'est le cas de le dire. Alors, fatalement, Emmanuel De Vos, la ouais. perle quand même... Ouais. Quelle qualité cherchez-vous chez une comédienne et que vous avez trouvé chez elle, quoi.
Alors, d'abord, chez ce personnage, je voulais un personnage qui sache exister dans les silences, qui sache nous raconter ce qu'elle ressentait quand elle sentait, donc sans aucune parole. Et je savais que, voilà, Emmanuel, ça vibre, c'est quelqu'un voilà, qui a une palette de nuances, de sensibilité, de ressenti... hyper intéressante. Puis après, c'est une comédienne d'un sérieux absolu, qui connaît son texte extrêmement bien, qui vous en parle plusieurs jours avant de telle ou telle réplique, si elle sent qu'il y a un truc qu'elle sent pas, qu'elle voit pas. Non, c'est qu'elle, et puis c'est quelqu'un qui, quand elle joue, a une conscience très précise de ce qu'elle a produit. Comme si elle entendait ce qu'elle jouait, et du coup, entre les prises, on se parle, mais elle sait très bien ce qui a été bien là, bien dans celle-là, et puis au bout de 4-5 prises, elle sait rassembler l'ensemble pour faire la prise parfaite, et ça, c'est pas tous
le
les comédiens, hein. C'est-à-dire qu'après, il y a quand même du montage qui fait qu'on donne au film voilà, le meilleur de ce qu'ont fourni les comédiens, mais elle sait sans montage rassembler le meilleur d'elle-même dans une seule prise, et c'est hyper agréable parce qu'on est on est spectateur de ça, et des fois ça dure, il y a des répliques longues dans le film, par moment il y en a une qui faisait je sais plus 3 minutes avant montage et tout ça, et elle arrive à faire vivre une phrase de 3 minutes avec tous les reliefs, les rythmes, les machins, sans qu'on décroche, quoi, et qu'on y croit en plus.
Les seconds rôles, alors là où vous avez dû vous régaler, assez décalé. Allez, le summum Kerverne en patron mafieux de la triade, ça c'est jubilatoire quand même, non ?
Oui, alors c'est nous, c'est marrant parce que c'est nous qui le lisons comme un patron mafieux parce qu'on a repris tous les codes graphiques du patron mafieux, et puis dès qu'il ouvre la bouche, on se rend compte que c'est un vrai gentil, quoi. Et non, en plus on lui a fait une tenue qu'il adorait, avec une moustache, les cheveux coiffés, alors qu'il est souvent cheveux en pétard, et puis dans ce lieu, ouais, que je vous laisse découvrir, mais qui est magique, où on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là, est-ce que c'est son resto, est-ce que... Et j'aime beaucoup qu'il y ait beaucoup de mystère autour, mais que ça nous empêche pas de comprendre ni d'apprécier ce personnage, ouais.
Sergi Lopez, là j'ai vraiment eu l'impression d'un clinic clown, donc il ne manquait plus que le gros nez là, parce que c'est vrai que professeur, mais en même temps tellement anecdotique et clownesque quand même dans sa façon de présenter les choses quand même là aussi. Hein.
Ben Sergi, le problème de cette scène, enfin le problème, c'était pas un problème, mais le truc à réussir, c'est qu'il avait un texte d'un médecin qui fait un diagnostic et puis une prescription. Et il fallait que, dans un texte qui est strictement un diagnostic, il arrive à être charmeur. Donc il fallait quelqu'un déjà de charmant. et puis voilà, et Sergi Lopez, entre l'accent et la manière et tout, c'est. Ouais, ça marchait fort. Et puis on a envie qu'ils se plaisent l'un à l'autre à ce moment-là du film, je trouve.
Tout à fait.
Puis il y avait un clin d'œil à Western. Vous voyez ce film Western de Manuel Poirier, où on avait Sergi Lopez et Sacha Bourdeau. Là, j'ai Sergi Lopez et Sacha Bourdeau qui se croisent comme ça dans le film. L'un en jardinier, l'autre en médecin.
Dernière question, la musique. Gaëtan Roussel, ouais, qui avait déjà travaillé avec les Kerverne de l'Épine, ouais, c'est Gustave qui l'a présenté ?
Eh ben non, même si quand j'y ai pensé, j'ai appelé Gustave. Mais moi, c'est quelqu'un dont j'appréciais beaucoup la manière dont il construisait les morceaux, ces petites mécaniques. Voilà, moi, je sais pas, quand j'écoute ces morceaux, j'ai l'impression d'un petit manège avec des engrenages et tout, et ça tourne. sans fin et on n'a pas envie que ça s'arrête. Et j'aimais beaucoup ça. Après, il se trouvait qu'il y a dans le film une autre chanson d'un chanteur américain très peu connu qui s'appelle John Prine, qui est un chanteur de country. Et j'avais pris des places pour le concert de John Prine et je vois première partie Gaëtan Roussel. Je me dis, ah putain, ça c'est un signe. Donc je lui en parle, enfin j'ai le contact et tout. Et puis il a vu le montage et puis il a aimé le film et puis il a beaucoup travaillé. Il a proposé beaucoup, beaucoup de choses et j'en ai gardé qu'un certain nombre. Parce que c'est pas un compositeur de musique de film au sens où on lui dit « Tiens, fais-moi une minute 20 là, et puis j'aimerais que ça rentre très fort derrière. » Lui, il fait ses morceaux avec des musiciens incroyables, etc. Et puis nous, après, il faut trouver comment employer ces morceaux dans le film. Et c'est une expérience qui était très chouette. Et puis il m'a fait le cadeau d'une chanson en générique de fin. Voilà, si vous, je vous conseille, si vous allez voir le film, de rester jusqu'au bout. Et j'espère que les salles vont... rester jusqu'au bout parce que là en avant-première je demande à ce que ça reste dans le noir et jusqu'au bout et quand c'est possible je trouve qu'il y a une émotion forte.
Kevin Mayne, un grand merci. On rappelle, Les Parfums sort le 25 mars.
Merci beaucoup.